Aujourd'hui, la masterclass de Denis Podalydès avec Arnaud Laporte.
Avec vous, Denis Podalydès, une double masterclass qui est proposée finalement, puisque nous allons parler ensemble de votre travail de comédien, mais aussi de votre travail de metteur en scène. Alors auparavant, il faut que je me permette de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, qui passe par les études de philosophie de lettres, puis le cours Florent, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, où vous entrez en 1984. Votre entrée à la Comédie Française, c'est le 27 janvier 1997. Vous en devenez le 505e sociétaire le 1er janvier 2000. Le parcours de metteur en scène lui débute la même année, sauf erreur, en 2000, avec Tout Monde Possible, d'Emmanuel Bourdieu, condisciple de vos études au lycée Fénelon. En 2008, première mise en scène à la Comédie Française, salle Richelieu, Fantasio d'Alfred de Musset. Puis à ce jour, sauf erreur là encore, vous avez signé 14 mises en scène.
C'était Cyrano avant Fantasio.
Ah, Cyrano avant Fantasio?
2006, et ce doit être 2008 ou 2009 Fantasio. Voilà, c'est dans cet ordre-là.
Voilà, heureusement que vous êtes là pour rectifier mes imprécisions.
Le conservatoire de l'entrée, c'était 85, mais c'est vraiment des détails.
Non, mais
détails.
Voilà. Non,
mais parce que mais je me suis dit, non, 84, c'était encore Normal Sup.
Non, il est important parce que ce que vous dites là va rester gravé pour les siècles.
Mais je ne veux pas trop intervenir. C'est
l'entretien de référence, évidemment. Oui. 14 mises en scène, dont une pour l'opéra.
Alors, j'ai pas compté, mais à peu près ça, oui. Ouais.
Alors, côté théâtre, alors là, je cite mes sources, Wikipédia. 68 rôles en 25 ans. Côté cinéma, 76 films en 25 ans également à peu près, à quoi il faut ajouter 30 rôles pour la télévision et les courts-métrages. Je ne vais pas vous demander si vous les avez comptés.
Non, j'ai pas jamais compté. Je pensais que j'étais à 50 films à peu près. Ça fait des années que je dis 50 films en fait.
Bon, faites une mise à jour.
76, bon.
Enregistrement de 14 livres audio et puis les collaborations... au registre des fictions et notamment sur France Culture. J'ai carrément pas fait le compte parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Et pour être complet, il faut ajouter l'écriture ou la co-écriture de 6 scénarios, l'écriture de 4 livres. On abordera également cette dimension-là. Mais on peut commencer par là, évidemment, Denis Podalydès, sur cette force de travail, cet appétit, cette gourmandise, cette boulimie, diront certains.
Parce que j'ai deux amis qui sont là, les lectures publiques, qui sont pas forcément enregistrées. Et ça fait partie. C'est un exercice que je place aussi haut que la pièce de théâtre ou le film.
L'énumération, ça vous donne un peu le vertige ou pas?
Ça crée une sorte de ce que Jean-Paul Sartre appelait le pratico inerte, c'est-à-dire tout un ensemble d'images, de connaissances qu'on a de vous et qui s'interposent entre vous et les autres. On peut vous percevoir à travers une sorte ça fait gros comme ça, ça fait grosse expérience, ça raconte plein de choses de manière implicite. Il a fait tout et partout, donc il a dû faire tout et un peu n'importe quoi. C'est de la boulimie, donc est-ce qu'il y a vraiment des choix?
Ça vous arrive de dire non?
Oui. Ah mais si on faisait le total de tout ce à quoi j'ai dit non, alors là, on finirait la masterclass par uniquement des chiffres et des listes. Des énumérations. J'ai dit non quelquefois à des choses, c'était très facile de dire non, mais des choses, des noms qui m'ont coûté de devoir dire non à Alain Resnais, par exemple. Je me rappelle que ça a été très dur.
Mais sans entrer dans la psychanalyse de comptoir, mais est-ce qu'il y a quand même une peur du vide chez vous?
Il y a sûrement une peur du vide. Je crois que je me suis engagé dans cette voie, le métier d'acteur, avec une très très grande appréhension. J'étais toujours très rassuré par l'institution, par l'école. J'étais très un écolier, je pense même dès la maternelle, heureux. Et donc j'ai attendu. Pour quitter l'école, le dernier moment, j'ai tout fait, j'ai multiplié les cagnes, et encore, en ratant encore une troisième fois Normal Sup, je l'ai repassé en moderne, alors que j'étais déjà élève au conservatoire, alors que j'avais quand même réussi à entrer dans une autre école. Tant que j'étais à l'école, je me sentais bien. Et quand on m'a fait comprendre le métier d'acteur, précisément, ça n'était plus l'école. Il y avait ce grand vide, un jeune comédien, tout le jeune comédien, s'il y en a qui sont là, à la sortie des écoles, il y a une sorte de grand vide tant qu'on ne vous a pas appelé. Et le métier d'acteur est un métier fondamentalement passif. Vous avez la dépendance des autres, des partenaires, d'un texte, d'un auteur, d'un metteur en scène, du public. C'est erratique dans l'année. On vous dit, on va travailler 2 mois là, mais les autres mois, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est quelque chose qui m'inquiétait fondamentalement. Donc j'ai toujours, à partir du moment où on m'a sollicité, mon premier réflexe était de dire oui, merci, mais de tomber à genoux de bonheur, parce que simplement quelqu'un avait pensé à moi. Et dans un deuxième temps, je m'intéressais à ce qu'on me demandait.
Et pour revenir à ces années d'études, justement, Denis Podalydès, au moment où vous les débutiez, enfin, vous sortiez du lycée, ces différentes prépas, vous aviez quel lien avec le monde du théâtre ?
Un lien de fascination et de fantasme, mais aucun lien direct, aucun lien. J'étais assez familier d'un théâtre qui était à 50 mètres de chez moi, qui était le théâtre Montansier à Versailles, mais la plupart de temps ne s'y donnait que des pièces de boulevard, des pièces qui commençaient souvent leur tournée là, parfois des petits ballets, des classiques souvent assez bons. Je pense qu'il y avait parmi eux aussi des acteurs qui étaient tout à fait remarquables. Et j'ai des souvenirs comme ça de matinées scolaires où on chahutait énormément. Donc ça c'était... Et en revanche, par la lecture, le rapport au théâtre passait beaucoup par la lecture. La lecture des pièces canoniques, de Molière à Shakespeare. Ensuite, la véritable découverte pour moi du grand théâtre, ça a été assez tardif en fait. C'est quand, étudiant, j'ai découvert les mises en scène des grands metteurs en scène qui se faisaient vraiment connaître en ce moment-là, dans les années fin des années 70-80, Vitez, Chéreau, Jean-Pierre Vincent, Lassalle, Streller, la découverte de Streller. Là, j'avais depuis toujours, je crois, une vocation, un désir d'être acteur, d'être aussi metteur en scène. C'était partagé avec mon frère et c'était complètement dans la cellule familiale. Et ça ne sortait pas de la cellule familiale. Puis ensuite, quand même, à l'école, le plaisir des sketchs avec d'autres élèves, en anglais notamment. J'écrivais des sketchs en anglais, on les jouait. J'adorais ça. Le plaisir de la récitation, apprendre un texte par cœur et le dire devant mes camarades. Et puis ensuite, les ateliers théâtre des lycées. Ça faisait partie aussi de mon attachement terrible à l'école. C'était un attachement, trop bas, parce que chez moi, il y avait un climat qui n'était pas toujours facile. Et je sentais qu'à l'école, je pense que j'étais aussi élevé dans le culte de l'école républicaine, de l'école laïque, où chacun avait accès au savoir et pouvait ainsi se défaire des pesanteurs familiales et des pesanteurs aussi issus du milieu social dans lequel on avait grandi. Donc ça, c'était l'école était vraiment un lieu d'émancipation et de culture. C'est comme ça que je crois que je le percevais très très jeune. Et chez moi, le théâtre avait une fonction totalement ludique. C'était faire le clown, raconter des blagues, faire l'intéressant. Et quand les deux se sont conjugués, c'est-à-dire le clown que j'étais dans la famille, dans la maison, et le lecteur fasciné par certains textes qu'il a découvert à l'école, alors là, il y a eu un désir de théâtre très très fort, mais qui était très fantasmatique. Par exemple, je n'ai pas songé une seule fois à m'inscrire au conservatoire de Versailles. Il y avait un conservatoire qui était aussi au théâtre Montansier, donc à 50 mètres de chez moi, mais c'était, curieusement, c'était trop réel ou trop concret. Je ne m'intéressais qu'à ce qui se passait dans l'imaginaire. Et donc, j'avais des noms comme ça. Jean-Louis Barrault était une sorte de phare dans la nuit. J'allais au théâtre du Rond-Point. J'y suis allé finalement assez tôt. J'étais fasciné par l'homme, moins par les spectacles, curieusement. Je m'y intéressais, mais c'était l'homme, Jean-Louis Barrault, et toute son histoire. Cet homme qui avait été d'avant-garde, qui avait connu Antonin Artaud, comme beaucoup de gens de ma génération, la lecture d'Artaud était aussi déterminante. C'était un puissant catalyseur du désir de théâtre.
Mais qu'est-ce qui vous a fait alors passer à l'acte et aller au cours Florent, vous inscrire dans cette école?
Un ami. Vous savez, dans les Cagnes, il y a souvent des leaders de groupe comme ça, des mentors politiques, intellectuels, littéraires, qui étaient un garçon d'une intelligence prodigieuse. Je m'accrochais comme ça à ces personnalités-là, très 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 brillantes, et je pompais tout ce qu'il y avait à pomper, donc je lisais tout ce qu'il lisait. Et c'est un jour, après m'avoir vu dans un atelier d'élèves au lycée Fénelon, où j'avais été en Cagnes précédemment, ça c'était au lycée Henri IV, Et après le spectacle, il m'a dit, toi, c'était un ordre, tu t'inscris au cours Florent, tu passes la classe libre, tu y entreras, puis ensuite tu prépareras le conservatoire et tu y entreras. Il avait dit ça avec
un prophète, un tel aplomb. C'est plus un mentor.
avec beaucoup d'aplomb, et comme il avait une immense autorité sur moi, je suis sorti du fantasme, d'une certaine manière, du théâtre fantasmé avec mes lettres à Jean-Louis Barrault qui n'arrivait, je ne sais jamais si lui était arrivé en main. Donc j'ai fait ça. Je suis entré au cours Florent, en classe libre, avec tout mon groupe de théâtre du lycée Fénelon. Je suis le seul à être entré. Et je me suis retrouvé là, alors là, un peu dans un statut très instable, où j'étais encore tellement proche de l'école, tellement mieux à l'école, tellement encore orienté vers l'école normale supérieure, la grecque de philo que j'envisageais, que j'étais le cul entre deux chaises. Et puis je suis entré au conservatoire. Et là, de nouveau aussi, un peu indécis encore sur le... J'avais peur aussi dans ma famille, le statut de professeur était un statut d'un prestige immense. Et beaucoup plus que le statut d'acteur. Je pense aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Des parents qui voient leur enfant vouloir devenir acteur, ils ont un peu peur pour lui, pour le chômage. Mais c'est pas indigne. Donc les lettres avaient beaucoup plus de prestige. J'avais peur d'une forme de, je sais pas comment dire, de déclassement en choisissant le métier d'acteur. Et puis à quel, pourquoi faire ? Qui allait m'appeler ? Très la grande peur du chômage.
Alors vous qui émettant les écoles, Denis Podalydès, les écoles de théâtre, est-ce que vous pensez qu'on y apprend quelque chose ?
Tout le professeur souvent qui a enseigné dans une école de théâtre, vous dites non, moi je n'apprends rien, c'est plutôt les élèves qui m'enseignent, ce sont les élèves qui s'apprennent. Évidemment que les connaissances dans une école de théâtre ne sont pas du même titre qu'en cours de philosophie où on apprend... On apprend même quelquefois très abstraitement, on apprend quelque chose. Mais néanmoins, il y a une certaine expérience de la scène quand même. Et puis, je pense que c'est beaucoup au contact des personnes qui sont avec vous dans le cours. Et quand même, le regard du professeur est très, très... Moi, j'avais au cours Florent un professeur, Raymond Acquaviva, qui avait une attention très, très aiguë aux élèves. Il ne se mettait pas en scène lui-même, il y avait un autre professeur... qui lui, on sentait qu'il se mettait en scène en tant que professeur de théâtre. C'est des effets terribles, ça. C'est-à-dire qu'en fait, la vedette, elle est dans le public et il joue son rôle pendant tout le cours. Et on sent qu'en scène, on n'a pas beaucoup de... C'est le regard n'est pas sur nous. Et or, Raymond Acquaviva avait un regard comme ça, très bienveillant. Et en même temps, il était pensionnaire à la Comédie Française à ce moment-là. Et il avait des catégories de perception comme ça qui étaient très... Toi, tu... Des emplois... Donc il crée d'une certaine manière une forme de grille qui me rappelait un petit peu des grilles scolaires, mais je n'étais pas perdu, j'ai eu le sentiment qu'il s'intéressait à moi, ça m'a donné une certaine confiance. Et puis surtout mes partenaires, il y avait Anne Brochet, et il y avait tout un groupe d'élèves qui d'ailleurs je les faisais venir au lycée Henri IV, où j'étais encore en troisième cagne quand j'étais au cours Florent. Et donc, le soir, j'étais interne au lycée Henri IV, on poussait les tables et on répétait. Et je me souviens qu'Anne Brochet, qui avait 16 ans, c'était elle qui était la plus mûre d'entre nous, du point de vue du désir de théâtre. Et donc, on travaillait, on travaillait comme des chiens. Et c'est en partie, je crois, grâce à elle que j'ai obtenu le conservatoire. Donc, on est autant formé par ses partenaire que par le professeur.
Si je fais un bond dans le temps avant de revenir un petit peu en arrière, justement sur cette question de l'apprentissage, est-ce qu'on apprend toute sa vie quand on est artiste, singulièrement comédien ? Est-ce qu'un rôle nourrit un autre rôle ?
Oui, moi j'ai toujours ce sentiment-là. À chaque fois qu'on commence un spectacle, le premier jour de répétition, c'est comme un jour d'enfance, c'est comme le jour où on redécouvre le théâtre. On ne sait, d'une certaine manière, souvent quand on appréhende une pièce, on ne sait rien. On est très très démunis. Et on se réfugie soit dans des choses qu'on a déjà faites, donc c'est du pré-mâché, et puis au fil des jours, c'est comme si on reparcourait tout son... On retraversait tout son parcours théâtral. Au bout de la deuxième semaine, ça équivaut à la première année du cours Florent, la troisième semaine, c'est le conservatoire, et la quatrième semaine, c'est le début dans la vie professionnelle, et ainsi de suite. Et j'aime assez cette façon de percevoir les choses, parce que ça permet aussi quand même de faire une mise à jour, comme on dit pour les ordinateurs, de façon à ne pas être assis sur son savoir, ses pratiques, ses tics, on en a tous, et de façon à être le plus vulnérable possible et le plus disponible à tout ce qui arrive en répétition.
Avant la première répétition, Là, vraiment, je m'intéresse au Denis Podalydès, acteur. On parlera du metteur en scène dans un deuxième temps. Comment est-ce que vous travaillez un rôle? Est-ce que vous faites par exemple, des recherches sur l'époque de la création, sur la vie de l'auteur, cette œuvre-là dans le parcours? Là, je parle plutôt des classiques, mais pour les contemporains, ce serait une connaissance directe de l'auteur.
Oui. Et il y a une partie du travail qui est très méthodique, qui consiste effectivement à lire l'auteur, lire la pièce, lire d'autres pièces, lire des textes en prose, quelquefois, de l'auteur en question, lire ensuite ce qu'on a pu écrire sur cet auteur, soit du temps de l'auteur et ensuite au fil du temps, par exemple, la littérature critique, j'adore ça, ça c'est un reste de Cagneux. J'ai toujours lu, par exemple, un texte de Jean-Pierre Richard, c'était un critique, ou peut-être qu'on lit moins comme ça, mais qui s'attachait à un thème chez un auteur et qui le travaillait le thème de la glace chez Mallarmé, la glace, le blanc, le froid. Alors ça me donne des quantités de sensations et ça active profondément le désir de jouer. Et ça, c'est un travail assez méthodique. Et puis l'autre part, elle est purement associative, c'est que je fais des associations qui est liées aussi au travail de mémoire. En mémorisant un texte, je laisse vaguer mon esprit, d'autant que dans le travail de mémoire, j'essaye de surtout pas fixer quoi que ce soit. J'essaie que le texte soit purement musical, qu'il soit pas affecté de différentes intentions. Souvent, j'apprends en faisant du vélo, par exemple, en marchant, en faisant du vélo d'appartement. Pour moi, c'est le meilleur, ça. Je fais même quelquefois en scooter, même. Je découpe un petit carré de texte que je scotche sur là où il y a le compteur de vitesse. Et je me dis, dans ce trajet-là, par exemple, de chez moi à Radio France, j'ai à peu près 30 minutes. Donc, 30 minutes à peu près, ça fait 5, 6, 7 lignes. Même en conduisant, je mémorise ces phrases. Mais donc, mon attention, quand même, est portée ailleurs, pour ma sécurité. Et ce qui fait que le texte s'imprègne de manière non intentionnelle. C'est en ça que ça m'aide. Après, le texte, je peux l'accélérer, je peux le dire très lentement, je peux le dire joyeusement, je peux le dire tristement. Il n'est pas affecté de la pesanteur de ce qu'est une intention. C'est surtout, généralement aux acteurs aussi, en tant que metteur, je demande, ça c'est ce que demandent souvent les metteurs en scène, c'est de ne pas charger d'intention, pas d'intention avant celles qui vont naître de la relation aux autres. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, ça n'est dans le fond jamais très intéressant. Parce que c'est souvent pré-pensé, pré-joué, et on voit tout de suite un acteur qui arrive en scène, en répétition, avec ce qu'il a fomenté avant. Ça rend la chose très peu spontanée, ça rend le personnage qu'il faut un peu raide, etc. Ça a de multiples inconvénients. Donc voilà, le but c'est d'arriver, j'adore être le plus tôt possible en répétition, texte su. En tant que metteur en scène, je demande ça, texte, si vous... parce que je sais que sur 2 mois de répétition, par exemple, si on ne sait pas le texte au premier jour, il y a quasiment 1 mois qui n'est pas perdu, mais qui est 1 mois de pur apprentissage de mémoire. Or, c'est drôle parce que je suis toujours étonné de ça. Le public demande toujours « Comment vous faites pour apprendre tout ça ?» pensant que l'acteur, ce qui le distingue en premier lieu, c'est la capacité à mémoriser un long texte.
C'est la question qui revient toujours.
Ça revient toujours et ça revient pratiquement chez tout le monde. Parce que même des gens qui en connaissent un rayon, qui sont cultivés, disent « mais enfin quand même, pour apprendre tout ça ». Or, c'est le travail le plus bête. Mais c'est pour ça que les gens dans la vie ne le font pas, parce que c'est un travail assez fastidieux, très long, auquel il faut consacrer beaucoup de temps. Quand on a un autre métier dans la vie, on n'a pas le temps d'apprendre tout ça. Sauf à être des fous furieux comme André Markovitch. Vous savez, et comment il s'appelait celui qui avait écrit « Résignez-vous » Non.
Indignez-vous. Indignez-vous. Magnifique lapsus. Stéphane Hessel. Rire dans la salle.
Résignez-vous. C'est une réplique dans Cyrano, ça. C'est le frère Capucin qui dit... Oui, et vous vous rappelez pas, je crois que c'est
Stéphane
avec
Hessel,
France Culture.
J'ai eu la chance qu'il me récite parfois des poèmes entiers.
Alors
Stéphane
voilà,
Hessel, fascinant.
C'est extraordinaire. Une mémoire, ce qui est une mémoire enfantine d'ailleurs, c'est la première mémoire. On sait que c'est celle qui reste le plus longtemps. Moi j'ai quasiment tout oublié d'Hamlet que j'ai joué il y a 2 ans. Et en revanche, je me souviens à peu près d'une réplique de Tartuffe apprise en seconde ou d'une fable de La Fontaine apprise dans la petite enfance. Et donc Stéphane Hessel, je pense que c'est il est tout dans une culture orale qui fait qu'il a dû apprendre tout ça parce que c'est colossal. Ils ont fait une soirée Markovitch, une sorte de duel, c'était magnifique. Ça, je l'ai entendu à France Culture, c'était fascinant. Un duel de mémoire. Qui est capable de ça? Même les acteurs ne sont plus capables, sont pas capables de ça, je crois.
Vous dites à Hamlet, il y a 2 ans, j'ai presque tout oublié. Si on vous donne les premières lignes d'un monologue, est-ce que ça revient du coup ou est-ce qu'il faudra retravailler ce texte-là?
Alors, ça dort toujours quelque part, c'est dans le disque dur. C'est-à-dire que si on réactive cette mémoire-là, elle revient assez rapidement. Mais enfin, il faut quand même s'y remettre. Là, je pense que je suis pas capable même être ou ne pas être. Telle est la question. Est-il pour l'homme plus... Non, c'est une autre ancienne traduction qui me revient.
Et pas celle que vous avez jouée avec Dan Gemmas.
Et pas celle d'Yves Bonnefoy, pourtant que j'adore. Mais c'est pareil, j'ai joué Richard II. Eh bien, je me souviens mieux de la traduction que jouait Jean Villard, parce que je l'ai beaucoup écouté, le monologue du troisième acte de Richard II. Asseyons-nous sur le sol et comptons-nous la fin lamentable des rois, ceux-là tués à la guerre, d'autres assassinés dans leur sommeil. Eh bien, ça, c'est la traduction de Jean-Louis Curtis. Et c'est pas celle magnifique que j'adore de mon ami Frédéric Boyer, que j'ai pratiquement oublié. Donc c'est la mémoire la plus ancienne qui demeure. Mais d'ailleurs, souvent, les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est les premiers souvenirs, les souvenirs d'enfance qui refont surface à des moments très inattendus.
Vous parliez tout à l'heure du fait que certains acteurs, actrices viennent en répétition avec des idées déjà préétablies, préconçues. Alors, on peut se demander quand même dans quelle mesure l'acteur est aussi créateur. J'imagine que ça dépend de la metteur en scène avec qui vous travaillez. Est-ce qu'il existe un genre de metteur en scène avec qui ça se passe bien pour vous, Denis Podalydès? Est-ce qu'il y a des plaisirs ou des difficultés de comédien différents selon le type du metteur en scène?
Ah oui, alors ça c'est une question très très vaste et assez mixte. Non, mais très très juste, très juste question, parce que je me demande pourquoi je me suis dit pourquoi je me suis senti si bien avec Ivo Van Hove, par exemple. Je pense que c'était dû à plusieurs... D'abord, il y avait une attente de ce metteur en scène-là depuis des années. J'avais vu des spectacles qui m'avaient tellement bouleversé que, évidemment, savoir que j'allais travailler avec lui réveillait presque un désir de théâtre enfantin. Et je l'ai remarqué chez tous mes camarades. On a attendu le premier jour de répétition et on était comme des enfants sages, fascinés dans la grotte mystérieuse. Il y a eu ça, il y a eu l'espace, il y a des espaces... alors ça aussi c'est très mystérieux, il y a des scénographes, des décorateurs, des metteurs en scène qui choisissent des espaces extrêmement accueillants et bienveillants pour l'acteur, pas simplement pour lui faciliter le travail, mais où ils sentent que les rapports géométriques, la profondeur d'un décor, son expressivité sont telles que vous parlez dans ce décor, vous marchez et vous vous sentez bien. Et il y en a d'autres où vous dites, je me rappelle d'un décor qui, pour moi, qui était catastrophique. C'était un petit spectacle, c'était il y a longtemps, parce que c'était le dispositif qu'on a toujours un peu dans le théâtre privé. Là, c'est bien parce qu'on ne fait que parler. On aurait à bouger. Vous avez un divan comme ça, il y a très peu de profondeur de scène, donc vous avez que position debout, position assise. Finalement, tout le monde s'assoit et ça parle et les corps s'éteignent. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose déjà qui fait violence à l'inspiration, à la liberté de jeu, etc. Chez Ivo Van Hove, il y avait aussi ce mélange, alors ça c'est le secret du metteur en scène, direction et en même temps éveil, rendre l'acteur créateur, le diriger sans lui mâcher le travail, trouver les moments justes où on doit dire quelque chose à quelqu'un et les moments où il faut le laisser travailler, il faut le laisser trouver par lui-même, il faut toujours mieux qu'un acteur trouve par lui-même. Alors très souvent d'ailleurs, ça se voit beaucoup au cinéma, des metteurs en scène acteurs. C'est pour ça, en ça, je me défie moi-même de mon, quand je suis metteur en scène, je me défie du fait que je suis acteur, qui ont tendance à jouer à la place. Au lieu d'aller chercher l'intention profonde, de dire, de diriger l'acteur par les effets qu'il doit produire. Le plus catastrophique, l'indication la plus catastrophique, c'est soit drôle, soit sincère. Et vous l'entendez, beaucoup au cinéma, ça. Hein, ça doit être comique. Antoine Vitesse, quand il sentait que les acteurs étaient en peine, fatigués, parfois démoralisés, parce qu'il y a des répétitions, c'est très important, les répétitions en vide, où rien ne prend, où il faut consentir aussi, il y a des jours où ça marche pas, ça n'avance pas, pourtant ça travaille. Parce que le découragement dans lequel on peut être, peut faire en sorte que quelque chose naisse. Je me rappelle, moi j'ai une petite anecdote personnelle, parce que ça a été un immense bonheur ce jour-là. Je répétais le réviseur à la Comédie Française. J'étais très anxieux du rôle, d'autant que j'étais encore jeune entrant dans la troupe. Je sentais les regards des autres, des regards certes, qui sont, vous savez, des partenaires qui vous portent pas forcément dans leur cœur ou qui attendent de voir le moment où vous allez vous planter, qui est un certain plaisir. Et donc je sentais un jour où je n'y arrivais pas, et c'était évidemment une scène collective, où le personnage de Khlestakov a un immense monologue qui doit être très très drôle, et puis je sentais le metteur en scène un peu dépité parce qu'il me sentait pas à l'aise. Donc le malaise gagnait tout le monde, j'étais perdu, j'étais triste, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Et on a arrêté un peu. On a juste un peu arrêté. D'habitude, un acteur qui sent que ça va pas, il veut pas arrêter du tout. Il dit non, on va y arriver. Quand un metteur en scène vous dit tu veux prendre un café, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que... Donc on a fait une petite pause. Pendant cette pause, j'étais infiniment malheureux. Et puis après la pause, on dit bon bah on reprend. J'avais toujours pas d'idée. Et la seule chose que j'ai faite, je me suis mis à marcher en rond, et puis je me suis mis à courir. Courir de plus en plus vite. J'ai élargi le cercle et puis à un moment je suis carrément sorti de la salle. J'ai couru dans les couloirs et je suis revenu. J'avais laissé la porte ouverte. Je suis revenu en courant. J'ai vu tous les autres qui me regardaient en se demandant mais qu'est-ce que je foutais. J'ai encore couru et puis à un moment j'ai sorti le texte. Tout est venu d'un coup, tout le texte. Parce que ce monologue, c'est un salmigondi, il délire totalement le Khlestakov, il raconte qu'il a connu Pushkin, c'est du vent. D'ailleurs, Khlestakov, ça veut dire coup de fouet, comme ça, coup de vent. Et je me rappelle que Jean-Louis Benoît, le metteur en scène, m'a dit ça, on le garde. Et donc, on a gardé la course folle, je sortais en coulisses, donc j'abandonnais les partenaires ainsi que les spectateurs, et puis je revenais en coup de vent. Ce jour-là, quand j'ai terminé et que j'ai entendu Jean-Louis dire ça, on le garde, et je me rappelle de Frédéric Bellier-Garcia, son assistant, qui m'a aussi dit, mais ça, c'est, on l'aurait jamais trouvé, ça. Et donc, c'est ce moment de découragement a permis qu'un acte désespéré fasse revenir l'énergie. Faut consentir à ces moments-là.
Mais justement, quand ça se passe pas bien, justement, est-ce que le comédien que vous êtes, Denis Podalydès, est-ce qu'il a une marge de manœuvre pour tenter de sauver quelque chose de votre point de vue dans un spectacle? Ça arrive, j'imagine. Oui. Ça vous est arrivé de jouer dans les spectacles. Vous le sentiez
oui,
pas.
On est très mal. Ah oui, ça arrive. Ou des films aussi. Et ça, c'est très, très dur aussi. Vous sentez que ça ne part pas du tout comme vous l'aviez rêvé et que vous allez être obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et donc là, parfois c'est triste parce que on convoque tout un savoir-faire un peu usé qui a déjà servi. On ressort des vieux outils. On dit bon bah alors là cette scène, je sais à peu près. Et on s'entend soi-même fourbissant des vieux trucs. C'est comme ça souvent que les acteurs prennent des tics. C'est souvent on a besoin quelquefois et régulièrement. Vous savez, il y a les metteurs en scène qui croient aux metteurs, les acteurs qui croient aux metteurs en scène et les acteurs qui n'y croient pas. Moi, je crois résolument au metteur en scène, et parce que il n'y a pas d'acteur, un grand acteur, sans un regard autre qui vous juge, qui vous critique, qui vous aime aussi, et qui vous. On a tous besoin, mais même dans la vie, on a besoin d'un regard à la fois bienveillant et critique qui vous dit là, ça ne va pas. Il faut consentir à ça. C'est narcissiquement extrêmement dur. On prend des coups terribles. Mais si la personne qui vous dit ça ne le dit pas dans un but malveillant, ça finit toujours par vous aider.
Mais cette perception-là, vous l'aviez avant d'être metteur en scène? Est-ce qu'elle s'est renforcée depuis que vous êtes devenu metteur en scène dans votre travail de comédien, quand vous n'êtes qu'interprète pour la vision d'un autre?
Ah oui, je sens par exemple qu'il y a, parfois il y a un regard qui est trop confiant. Il vous voit à travers un limbe de la notoriété, de l'expérience, d'un statut social... de je ne sais quoi, et donc il va pas oser vous dire ça va pas. Vous sentez qu'il le sent. Parce que une leçon géniale, c'était Piccoli, en scène. Il se trouve que j'étais rentré à l'Odéon, comme ça, dans les hauts, et je l'ai vu répéter. C'était Bondy qui mettait en scène, Jean-Gabriel Borkman, et j'étais fasciné ça parce que je suis rentré et j'ai senti un grand malaise dans la salle. Piccoli répétait, et Piccoli errait sur scène. Il disait un peu de texte, puis il en disait plus. On sentait qu'il était perdu. Et à un moment, Piccoli disait, c'est mauvais ce que je fais, hein? C'est mauvais. Personne ne répondait dans la salle. Il dit, si, c'est très mauvais ce que je fais, hein, Luc? Et j'entends une petite voix, la voix de Luc, qui dit, ben oui, c'est mauvais. Oui. Et alors moi, ça m'a fasciné. Ça me disait, putain, Piccoli, il est mauvais. Piccoli est mauvais. Et c'était une révélation. Je me dis, ça, c'est génial. Là, vraiment, je l'aurais vu dans toute sa splendeur. J'aurais vu le grand Piccoli. Mais là, de le voir mauvais, et je constatais que ça n'allait pas. Je disais son texte. Ça a été un déclic fantastique. Je pense que tout acteur doit rater. Le texte fondamental et qui donne une énergie folle, c'est Cap au pire de Beckett. Rater mieux, rater toujours mieux. Et il faut rater, il faut ne pas hésiter, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut se planter de façon à laver le corps et l'esprit de tout ce qu'on sait faire. Parce que si, on peut toujours, pratiquement dès le premier jour, donner le change. Et le savoir-faire dans le domaine du jeu d'acteur, c'est terrible. Ça a des conséquences. Mais il y a des fois, vous êtes obligé parce qu'il y a personne en face. Ou alors il y a quelqu'un qui est là et qui lui-même prend son cachet. Vous avez une quantité de films, c'est terrible. Vous savez qu'il n'y a pas de réalisateur parce qu'en fait, il y a un très gros budget. Donc c'est les producteurs, les diffuseurs qui noyotent la chose. Ils ont mis un réalisateur figurant. Qui lui est là pour faire beau, pour dire aux acteurs vous êtes formidables, oh là là, est-ce que c'est beau ce que vous faites, et donc vous êtes dans le vide, et donc ça donne toute la quantité de films qu'on voit qui sont à première vue pas si mauvais, et puis à deuxième vue c'est écœurant.
Puisque vous reparlez de cinéma, Denis Podalydès, on a évoqué tout à l'heure la question de la mémoire. L'autre question qu'on pose toujours aussi, c'est la différence en tant qu'interprète. Entre le travail qui est fait au théâtre et celui au cinéma. Est-ce que fondamentalement ce sont deux arts différents, ou est-ce, parce que il est très rare, et vous en êtes un des rares exemples, d'avoir une carrière aussi riche et aussi bonne au théâtre qu'au cinéma?
Ça dépend des films, ça dépend des réalisateurs, ça dépend des conditions de tournage aussi. Je pense à un film de mon frère, Le mystère de la chambre jaune. C'est un film totalement théâtral. La nature du dialogue, assez littéraire, que mon frère avait conservé tel quel, c'est quand dans une langue qui n'était plus du tout une langue d'aujourd'hui, le plan séquence très long qu'il pratiquait, qui donnait à ces scènes la qualité d'une représentation. On partait dans le plan comme on part dans une représentation. Il n'interrompait pas. Souvent, il filmait en pied, beaucoup. Parfois, américain, mais à plusieurs dans le champ, avec des déplacements qui étaient des déplacements de théâtre. Tout ça faisait presque coïncider le théâtre et le cinéma. Il avait comme modèle en tête René, qui a, d'ailleurs, quantité de ses films, c'est une catégorie presque entre théâtre et cinéma, du théâtre-cinéma au cinéma-théâtre, et qui n'est pas du théâtre filmé, ni du cinéma théâtralisé. Alors ça, c'est très... Les frontières sont presque très très floues. Puis il y a d'autres films, vous avez un dialogue très quotidien, ou peu de dialogue, filmé en extérieur, caméra à l'épaule, des plans courts, ou de très très près, un réalisateur qui ne se fonde pas du tout sur la direction d'acteur, qui laisse les acteurs agir totalement librement. Tout ça fait une toute autre association. Après, il y a intérieurement, physiquement, le théâtre, c'est toujours très très physique, pour moi, et le cinéma, c'est nerveux. C'est-à-dire, par exemple, un plan proche, vous savez qu'un battement de cils va se voir, que le spectateur peut se dire pourquoi il y a ça. N'importe quel trait du visage prend le décor, c'est le visage. Et au théâtre, même si les gens peuvent être très près devant, il y a une perception toujours en pied. Et donc, vous ressentez ça, ce qui fait que parfois, les acteurs, souvent des acteurs qui ont, quand ils découvrent ça au cinéma, ils se rendent compte qu'un plan aussi bête que de prendre une bouteille et de la boire, ça va plus de soi. Parce qu'on sent la caméra très près, du coup, il y a un petit tremblement. On sent, oh mince, je m'en suis versé. La réplique ne vient pas au bon moment, faut recommencer. On dit, hop, 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 on arrête. Et il y a tout un processus nerveux qui rend la chose, qui ne la rend plus du tout naturelle d'ailleurs.
Le plaisir dont vous parliez, enfant, de la récitation devant les camarades, ça c'est le plaisir que vous pouvez retrouver sur un plateau de théâtre, j'imagine.
Oui, c'est le plaisir du texte.
Que vous cherchez à retrouver aussi, mais le plaisir au cinéma ou sur un plateau de tournage, cinéma, télé, peu importe, il est de quelle nature pour vous?
La nature du jeu. Vous avez dit, moi, si je remonte un peu de manière un peu simpliste, mais il y a un peu en moi un histrion et un littéraire, si je peux dire. L'envie de faire le clown et l'envie de rendre compte des textes qui me bouleversaient. Et c'est toujours le cinéma serait peut-être plus du côté du clown à ce moment-là, de l'histrion, le pur désir de jouer. le pur désir de jouer, d'être un autre. C'est souvent une des choses qu'on aime dans le fait d'être sur scène, c'est être un autre, faire comme si on était un autre, alors qu'on l'est. C'est pour ça qu'on a tellement, on peut avoir du goût pour la composition, pour la transformation, jouer un méchant quand on est plutôt un gentil, ou l'inverse. Le désir d'être autre, autrement, autre part, dans un autre corps. Et le cinéma, parfois, donne cette sensation. Quand vous êtes en extérieur, je me souviens d'un plan comme ça, j'étais à vélo, un film s'appelle Les âmes grises, et je devais remonter toute une colonne de soldats, comme ça. Et j'avais l'impression d'être au milieu. Mon frère, quand on était petit, faisait ce qu'on appelait des dioramas, des grands paysages avec plein de petits soldats, vous savez, de la guerre de 14. On en avait, et j'ai eu l'impression d'être un de ces petits soldats au milieu du diorama. Donc j'étais entré dans cet infiniment petit, et j'existais là, et c'était une sensation purement ludique. Le cinéma, parfois, c'est purement ludique pour moi. Alors qu'au théâtre, il y a parfois le plaisir de retraverser ces textes que j'aime. Ça, c'est pour moi, je pourrais jamais. C'est pour ça que je pourrais jamais m'arrêter de faire du théâtre, parce qu'il y a un rapport à la langue, au texte dit, un rapport à la poésie. Je suis grand lecteur et amateur de poésie, genre littéraire poésie. J'en lis beaucoup. Et j'ai besoin. C'est un besoin physique de proférer, de dire, parfois très fort, pas fort, dans un certain rythme, de trouver la musique des mots, de m'enchanter de la matière des mots. Vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'est le moment où le langage est le plus près de la chose palpable. Et souvent, les acteurs qui m'ont fasciné, adolescents, c'était des acteurs qui donnaient aux mots qu'ils disaient quasiment une qualité matérielle.
Mais alors, sur ce plaisir-là, à la Comédie Française, singulièrement, Denis Podalydès, on peut jouer un même rôle, dans une même mise en scène, dans une très longue série de représentations, le reprendre éventuellement la saison suivante ou les saisons suivantes. Alors, comment ne pas éprouver une forme de lassitude ou de routine? Comment est-ce qu'on est toujours dans cet enchantement de la langue quand on joue pour la 47e fois, 100e fois, le même rôle dans la même mise en scène?
Tous les acteurs connaissent ça, ces coups de lassitude. Je parlais avec Jérôme Kercher avant-hier, que j'ai vu dans le très très beau spectacle, où il est seul en scène, Le Monde d'hier, spectacle que je vous recommande, tant le texte ensuite est parlant aujourd'hui. Vous l'avez vu?
Oui, bien sûr.
Oui, oui.
Stéphane Zweig, juste avant de mourir, a écrit ce texte.
C'est bouleversant. Et Jérôme est bouleversant et magnifique dans ce... C'est un acteur qui m'importe beaucoup, parce qu'on est de la même promotion du conservatoire. Et on se redisait d'ailleurs avec Jérôme qu'on était... Quand je le vois en scène, je vois une partie de moi. Et je vois une partie d'Éric Elmosnino et de Patrick Pinault, que ce soit trois acteurs à travers lesquels je me suis... Je disais au début, voilà, ce que j'ai appris, c'est à traverser leur corps à eux, à prendre dans leur corps à eux des choses. Je sais que j'ai des inflexions qui me viennent de Patrick, d'Éric, de Jérôme, et j'en retrouve de Patrick dans l'art de Jérôme, et en même temps avec une singularité prodigieuse. J'ai passé un très très moment très émouvant pour moi, parce que quand je vois Jérôme, et je vois le temps qui passe sur lui, sur moi, enfin bon, vous imaginez tout ce qu'on peut éprouver. À propos de quoi je disais ça?
La lassitude. Oui,
la lassitude, il m'a dit, j'ai joué ça 140 fois, déjà depuis le mois de juin. Moi, j'ai jamais connu ça. J'ai joué 140 fois un spectacle, mais c'est étalé. Ça, c'est le prodige notamment de l'alternance. Il y aura des heures à faire sur l'alternance, le plaisir de l'alternance, de ne pas jouer tous les jours le même rôle. Ça, c'est pour l'enrichissement de l'acteur. C'est ça qui fait qu'au français, on peut traverser aussi les années, avec le sentiment de se renouveler. Et il passe par des moments où il n'a pas du tout envie de venir jouer. Et alors, dans ces cas-là, ce qu'il fait, bon, forcément, il vient quand même, il laisse le texte le prendre. Il laisse la chose parler à travers lui. Il ne dit pas, je vais comme ci et comme ça, je vais leur en mettre plein la vue. Non, il laisse commencer, il laisse une seconde venir après l'autre. Et je crois que c'est la seule façon de... Mais je pense que c'est ce qu'on fait tous dans la vie quand on est en proie à la routine. Tout le monde connaît la routine, vous aussi, de venir un jour à la radio, puis vous n'avez pas envie. Et donc, vous faites les gestes machinaux. Et il y a toujours un moment, pour peu qu'on soit suffisamment disponible, dans un relatif éveil, il y a du sens qui revient. Il y a quelque chose qui donne sens à votre pratique. Un petit détail, je sais pas, ça peut être le goût du café, une phrase sympathique qu'on vous dit, ou une chose dans l'actualité qui vous marque, et vous faites des associations d'idées. C'est souvent ce que je fais. Par exemple, des jours où j'ai pas du tout envie, je me mets complètement à l'écoute des partenaires, et j'écoute j'essaie d'écouter le plus fortement possible ce qu'ils disent. Et je me rends compte, d'ailleurs, il y a des fois, on le fait pas. Mmh. On est tellement... C'est les jours où on sent qu'on va casser la baraque, et c'est souvent les jours où on se plante. On a envie de jouer, on a envie d'en découdre. Du coup, on n'écoute pas ce que l'autre dit. On le coupe. On n'est pas dans la résonance, dans l'harmonie. Voilà. Mais il y a mille autres façons de traverser ces moments de lassitude.
Alors, vous évoquiez l'alternance de Denis Podalydès. Alors, j'ai enfin pouvoir poser une question comme un détective de polar. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait la journée du 31 janvier 1998 ?
31 janvier 1998 ? Je n'ai aucune idée.
Il y avait Emmanuel Bourdieu qui vous suivait avec une caméra.
Ah oui, 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 d'accord, c'est ce jour-là.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
D'une certaine manière, c'est moi qui l'avais voulu. J'ai joué trois fois dans la journée, trois pièces différentes dans trois salles différentes.
Ça s'appelle Les Trois Théâtres, c'est un... Moyen-métrage.
Emmanuel m'a suivi, a fait un documentaire. Je ne sais pas si ce documentaire est visible d'ailleurs. Oui, je pense qu'il est, il est assez riche, j'imagine. En fait, c'est moi qui
alors, vous jouiez donc dans les Fourberies de Scapin à 14h, salle Richelieu, le Leg de Marivaux
à 18h30,
au studio théâtre, et Arcadia de Tom Stoppard de Vieux Colombier.
Voilà. Voilà. Les trois rôles assez importants. Octave, ça commençait par Octave dans qui occupe tout le premier acte des Fourberies de Scapin et qui est un rôle très important dans ce premier rôle. C'est lui qui lance la pièce. Le Leg de Marivaux, c'était le personnage du marquis, qui est le rôle principal, qui demandait une concentration. Marivaux demande une sorte de concentration mentale, de façon à épouser. Parfois, dans les textes, on est totalement dominé par la pensée du personnage ou du rôle, ou la syntaxe du texte vous domine. Vous sentez que vous n'êtes pas maître, et donc ça parle à travers vous, mais d'une manière un peu abstraite. Il faut toujours quand même incarner. Et Marivaux est très... Si vous êtes fatigué dans Marivaux, ça s'entend, et vous débitez, et la sensation se perd, la saveur. Et Arcadia, c'était un rôle où j'avais un monologue sur les mathématiques, qui était d'une densité. D'ailleurs, j'ai rencontré plus tard le mathématicien. Alors, l'auteur s'était pas foulé, il avait copié-collé le texte du mathématicien. Il y avait une énorme démonstration, face publique, comme ça, et j'étais censé écrire sur les algorithmes itératifs. En fin de journée, après avoir joué, j'avais des vertiges. Mais j'ai pas un souvenir si heureux de cette journée-là. Je pensais que j'allais apprendre des tas de choses sur mon métier, et en fait c'était que de la fatigue, de la peur, je me précipitais d'un théâtre à l'autre en faisant des idées, parce que il y a une grande partie d'idiotie dans le métier d'acteur, le fait de ressasser tous ces textes, parfois ça vous les fait pas mieux connaître. Curieusement, il y a des pièces, dans un texte je vous dis, j'ai l'impression de quelquefois que jouer un rôle c'est comme traverser une maison, un château, de part en part sans s'arrêter dans aucune des pièces. Curieusement, les représentations, ça passe très très vite. Il y a des représentations qui ne vous laissent rien, presque aucune trace. D'autres, oui. Et quand je repense à Hamlet, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vraiment, vraiment joué. C'est peut-être pas vrai, mais il y a cette part de bêtise à laquelle on doit consentir. Parce qu'en répétition, il ne faut pas jouer à l'intelligent tout le temps, celui qui sait, celui qui a tout compris, qui connaît toutes les intentions de la scène... toutes les implications, et à un moment il faut simplement une sorte d'abandon. C'est ça qui est la difficulté, c'est la dialectique de l'abandon et de la maîtrise. Maîtriser les choses et s'abandonner à les réfléchir, et puis cesser de les réfléchir. Il faut jamais ni être tout à fait intelligent, ni être tout à fait bête. Notamment quand on joue le rôle d'un idiot, il faut le jouer très intelligemment. Je sais plus pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que je dois monter les Fourberies de Scapin, et je cherche à ce que Géronte soit d'une crétinerie crasse, mais en même temps il faut c'est un malin terrible, à la fois malin et bête, et pour jouer quelqu'un de très très bête, de très très con, en fait il faut un acteur hyper intelligent. Si c'est un peu bête, cette bêtise n'aura pas... C'est magnifique, la bêtise. Flaubert a définitivement, dans Bouvard et Pécuchet, raconté le grand roman de la bêtise. Il faut être capable de ça. Bon, je sais plus ce que je voulais dire.
Ce que vous avez appris ou pas, jouer trois pièces dans la même journée, pas grand chose. Parce que ça passait vite.
Ça a passé.
C'était de la fatigue.
C'était que de la fatigue.
C'était
qu'une espèce de corps et de machine à dire et à jouer. En fait, il faut pouvoir j'avais trop présumé de mes forces.
Alors, autre cas de figure important, c'est d'être seul en scène. J'ai vu plusieurs fois.
Oui.
Ce que j'appelle Oubli, texte de Laurent Mauvignier, terrifiant et magnifique. Est-ce que ça demande, quand on est seul en scène, bon voilà, une heure et en plus, ici, presque immobile, ou quasiment immobile, oui, planté sur ses jambes, comme ça, face publique, est-ce que ça demande justement un état physique, un état d'esprit particulier?
Oui, c'est drôle, ça demande un peu tout ce que je disais, cet état de disponibilité totale, d'abandon. Ça avait quelque chose, effectivement, j'étais seul en scène, et un texte de 55 minutes, qui est une seule phrase. Quand je commençais, si j'avais un rien me troublait. Parce que le fait de... Je me suis dit, tiens, en fait, quand on bouge en scène, c'est aussi pour se protéger de l'oubli, du trou de mémoire, se protéger de la peur d'exister, tout simplement. Et quand on répète, les acteurs bougent leurs mains dans tous les sens, c'est affreux. On sait que ça va se simplifier au fur et à mesure, mais c'est parce qu'on chasse quantité de choses qui nous font peur. On sent qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bien, que ça va pas, l'espace n'est pas... Et là, en choisissant d'être tout à fait immobile, les bras le long du corps, je ne pouvais pas me débattre. J'avais l'impression d'être seul au milieu de mon cerveau, de n'avoir que mon cerveau comme arme pour me défendre. Cerveau qui était lui-même soumis à ce texte. D'ailleurs, quand on mémorise, on bouge beaucoup. Moi, je bouge beaucoup. Ne pouvant pas bouger, je n'avais qu'à faire confiance à mon cerveau. Et c'est très très dur de se dire, je m'accroche à mon cerveau. Dites-vous ça, et vous n'avez rien. En fait,
c'est vertigineux.
C'est le vide, et il faut que ça parle. Et en même temps, il faut maîtriser la pensée. Donc vous êtes dans toutes les contradictions possibles du métier d'acteur. C'est à la fois, vous avez supprimé le corps, et en même temps, vous n'êtes qu'un corps. Vous avez supprimé le jeu, et en même temps, il faut dire tout ce texte. Mais je pense que je suis fasciné par... la notion de contradiction, pour moi, je ne me sens bien que quand il y a des contradictions. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, toute situation qui me met dans une situation contradictoire, et une part de moi qui aime ça et qui recherche ça. J'aime jamais prêcher des convaincus. J'aime beaucoup la comédie française pour ça, parce que des fois, les publics sont très différents. On a des publics, je me suis fait huer un jour, là, dans les damnés, interpellé, comme ça, une voix dans la salle. Et je me suis dit, ah bah quand même, on prêche pas que des convaincus. Il y a des gens que ça choque, c'est bien. Il y a du conflit.
T'as quel moment ?
Dans la scène de La Nuit des Longs Couteaux, quand je suis nu pendant 10 minutes.
Est-ce qu'on pourrait parler de ça aussi, de la nudité sur scène ? C'est aussi une.
C'est aussi. Et là, par
un moment très particulier.
La si grande confiance que j'avais en Ivo Van Hove, il fait que je ne lui ai même pas demandé s'il fallait être nu. J'ai deviné, il m'a dit, c'est une bacchanale. Hein. Alors, c'est un état extrême. Connaissant un peu ces spectacles, je vous dis, il faut enlever le slip. On ne garde pas le slip. Et donc, dès que le premier jour, on a répété cette scène, on s'est retrouvés, Sébastien Boulin et moi, on s'est retrouvés à poil, tous les deux, et ça n'a pas posé plus de problèmes. Mais là, j'ai une mise en scène qui m'habille d'une certaine manière. Je suis dans un spectacle qui m'accueille, où je me sens bien intellectuellement, c'est aussi important. Je m'y sens bien politiquement, si je peux dire, artistiquement, donc je m'y sens bien sous tout. Je peux affronter n'importe quelle salle. Il y a des spectacles où vous seriez presque d'accord avec le public qui critique, qui s'ennuie. Et puis il y a des spectacles, même si une salle entière qui se retournerait contre ce spectacle, je m'en moquerais. Au contraire, je l'affronterais avec toute la conviction et la certitude d'être au bon endroit.
On s'est éloigné de Laurent Mauvignier, ce que j'appelle l'oubli, mais...
Oui, je sais plus.
Mais non, mais c'est la question, effectivement, plus de corps, plus de jeu, mais en même temps, c'est le paradoxe.
Et je retrouve là un peu tout, c'est-à-dire quand même le plaisir du jeu et le plaisir du texte pur, de faire en sorte qu'une phrase, par sa rythmique, dessine toute une histoire, dessine les lieux, rende concret ce qu'elle raconte. Et je pense que ce texte de Mauvignier a cet art-là de capter le réel. De capter le réel dans ses plus infimes détails. J'ai encore lu son dernier roman. Il a une façon, quelquefois, comme Faulkner ou comme Claude Simon, et ce sont des rythmiques qui sont assez voisines, de saisir du réel simplement par le rythme de la phrase. Et c'est comme s'il avançait avec une espèce de capteur ou de choses à détecter les trésors, et il aimante le réel. Sa phrase aimante. Et il suffit de se mettre dans le bon couloir, si je peux dire, de prendre la phrase de manière assez unie et de ne pas rajouter ni trop d'intention, justement, de pas trop colorer les choses et de laisser faire. Laisser faire la phrase, eh bien, elle vous emmène quelque part. C'est pour ça que j'avais supprimé le corps, parce que j'interpose rien entre moi et la phrase, entre le public et la phrase. Il y aura, c'est comme le texte de Beckett qui s'appelle « Pas », où il demandait de signer que la bouche d'éclairer, c'est la bouche de Madeleine Renaud, et de façon à ce qu'il n'y a que les mots qui opèrent. C'était ce désir-là, c'était un peu un fantasme aussi, de jouer le plus à nu possible.
Alors j'avais annoncé au départ une double masterclass pour parler du Denis Podalydès comédien et du Denis Podalydès metteur en scène. Je crois qu'il faudra qu'on fasse surtout une deuxième masterclass puisqu'on arrive presque au terme de celle-ci. Mais c'est bien parce que toutes mes questions qui sont prêtes, qui vous attendent pour le travail de metteur en scène. Mais pour finir sur le travail de comédien, pour évoquer encore quelques questions. Pour ce que j'appelle oubli, pour le coup, quand on entrait dans la salle, vous étiez déjà là. Le corps était déjà là, présent. Il n'y avait pas d'entrée en scène. Mais est-ce que vous avez des... Qu'est-ce qui se passe dans ce moment où, d'un pas, on passe de la coulisse au plateau, physiquement? Est-ce que vous avez aussi des rituels? C'est un métier où il y a beaucoup de rituels. Comment vous viviez ce moment?
Je suis très peu superstitieux, donc les rituels sont des...
Vous vous en méfiez par superstition?
peut-être. Ce sont des rituels pratiques. Par exemple, je sais quand si je suis fatigué, soucieux, voire malade, il faut que j'accomplisse toute une série d'actions qui vont m'amener de seuil en seuil, de proche en proche, jusqu'au plateau. C'est-à-dire, aux Français, c'est passer par la cafétéria, manger un peu, monter à ma loge, lire un peu, étendu sur le lit, éventuellement dormir un peu, passer à brossage de dents, éventuellement... je sais pas, du déodorant, maquillage s'il y a lieu, et de donner à toutes ces actions-là le maximum de densité possible, enfin de m'y consacrer, éviter de regarder le téléphone, les messages, parfois même je coupe le téléphone à ce moment-là, et là c'est, vous voyez, le premier seuil du théâtre, le seuil de la cafétéria, l'ascenseur, la loge, tout ça, les toilettes, très important, et puis la descente au plateau, bonjour aux uns aux autres. Et après, quand on est près de la première, alors là, tout ça est presque religieux. Et puis, plus on est loin de la première, tout ça prend de la souplesse. Je peux regarder quand même un peu mon téléphone. Et puis, plus on approche du plateau. Non, moi je peux rentrer même. C'est simple. Hier soir, on faisait les gugus juste avant d'entrer en scène. J'étais lancé dans une conversation avec Guillaume Gallienne. On riait. J'ai pas de rituel. Bon, voilà. En gros, il y aurait ça, mais il y a pas vraiment de. En revanche, ça dépend aussi des pièces. Avec Ivo Van Hove, on entre très très en douceur dans le spectacle. On n'est pas requis physiquement. Je me rappelle par exemple les Fourberies Capin. Ça commençait par un cri et une scène qui devait se jouer à fond la caisse, rapidement, avec une grande puissance vocale. Je me faisais agripper. Puis ensuite, je me suis giflé par Philippe Torreton, qui me donnait une grande gifle. Donc je me rappelle d'un jour où je m'étais pas réveillé, je croyais que je jouais le soir, on m'a appelé à 2h-20, j'ai filé, j'ai arrivé, j'avais pas pris de café, rien, et je me suis fait gifler par... je suis ressorti de scène, j'ai bu un café, j'étais hagard, complètement hagard, je sais même pas comment j'avais fait pour dire le texte. Donc là c'était très très violent, mais par exemple ce que j'appelle oubli, je savais que j'entrais dans le noir, je me mettais dans le noir et la lumière montait. Je passe à une espèce d'oubli de soi, jusqu'à oublier, jusqu'à tuer père et mère, j'allais dire. D'essayer d'être le plus seul possible, le plus à part de tout, de me concentrer juste sur un verre d'eau, de garder cette dernière gorgée le plus longtemps possible de façon à ce qu'elle irrigue la première phrase au moins jusqu'à la fin de la première page. Voilà, c'était mon souci, c'était ça. Et alors, ce qui est drôle dans ce que je veux, c'est un détail purement physique, c'est que quand vous restez immobile, les bras, le sang descend, le sang tombe. Et ce qui fait que, au bout de 25 minutes, j'avais les mains et les avant-bras très lourds. Et j'étais de plus en plus ancré dans le sol. Et ça m'aidait, mais ça ne m'aidait qu'au bout de 25 minutes. C'est-à-dire que quand on est très très ancré, comme ça, d'ailleurs c'est un exercice à faire, c'est pour ça je pense que dans le yoga on apprend ça, c'est quand le sang descend, il y a quelque chose qui se décongestionne en haut, qui fait que même si vous êtes un peu fatigué, vous sentez beaucoup mieux du fait de cette stature verticale. Et ce qui fait que je finissais toujours beaucoup plus facilement, évidemment, que je ne commençais. J'ai découvert ça. Quand vous êtes rendu qu'à votre simple enveloppe, vous découvrez tous les phénomènes physiques, nerveux qui se passent.
Pour terminer tout à fait, avant de baisser le rideau, justement, parler des saluts, du moment où le public réagit. Alors, le plus souvent, et on le souhaite, les applaudissements, parfois des huées. Ça nourrit comment ce dernier moment de présence sur le plateau qui n'est plus la représentation, mais qui est quand même encore une exposition au public?
Ah, ça nous renseigne sur la salle à laquelle on s'est adressé ce soir-là. On a souvent, on sait à peu près si c'est une bonne salle, pas vraiment une bonne salle, s'il y a beaucoup de gens qui toussent, des gens qui bougent, voire des gens qui manifestent une certaine hostilité, ça peut se sentir. Et donc les applaudissements nous donnent c'est pas comme si on recevait notre note, mais bon, c'est un moment chaleureux. Ça peut être un moment, il m'est arrivé d'être soudain bouleversé par des applaudissements, parce que j'avais perçu soudain un visage particulièrement bienveillant, reconnu quelqu'un, je ne sais pas, senti la chaleur. Si, une salle qui se met debout, par exemple, il y a deux semaines, le soir, les damnés, vraiment, l'orchestre s'est levé, on a ressenti cette chaleur-là très, très, très fortement. Ça dure un instant très, très court, c'est très, très émouvant. Mais c'est très très bref. Dès qu'on est ressorti, la vie normale reprend tout de suite. C'est d'ailleurs étonnant comme on est capable de entrer dans la vie, sortir de la vie, entrer dans la vie avec une vitesse déconcertante. Je vois moi, mes camarades, souvent quand on a joué, et je pense que tous les acteurs savent ça, quand on a joué 50 fois, on n'est pas du tout un acteur, c'est tout sauf un schizophrène, je crois. Il ne confond pas une seule seconde la scène et la vie. Il le sent tout. Je vois les corps changent. D'ailleurs, fille, et le corps change. Vous êtes fatigué? Non, vous êtes en forme. Dès que vous entrez en scène, souvent le nez s'arrête de couler. Par exemple, j'ai souvent constaté ça. Un chat, une gorge douloureuse, eh bien, on est dans la pièce, elle fait plus mal. J'ai même vu un acteur, je me rappelle, qui était très malade du sida. Il allait mourir 15 jours après. Avant la scène, il avait un masque à oxygène. Il le mettait. Il restait 15 minutes en scène. Il posait son masque. Il jouait sa scène pendant 15 minutes, il ressortait, il remettait le masque. Mais les 15 minutes de scène, il n'était pas véritablement malade.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
C'était la masterclass de Denis Podalydès avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.